Le sens des mots. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Bonjour, dans cette rubrique mots pour mots, Jean Prévost traite de l'étymologie et de l'histoire de deux mots, pièce montée et croque en bouche.
Pièce montée et mariage en nombre. Pièce montée, voilà deux mots repris par Blandine Lecallet qui les a choisis pour titre de son premier roman en 2008. Deux mots qui font immédiatement penser au mariage, puisqu'il s'agit en effet de l'appétissant monument présenté à la fin du repas de mariage, constitué de plusieurs étages, de pâtisseries et souvent édifié avec beaucoup de talent. Un monument qui achèvera sa carrière, hélas, ou tant mieux, déconstruit pièce par pièce dans les estomacs des convives. Le dit monument relève bien effectivement d'un type d'exploit puisqu'il fait partie des records grotesques à battre. En 1987, on signale par exemple à Épernay une pièce montée de 4 mètres de large sur 5 de long, pesant 1200 kilos et constituée de 12 000 petits choux, le tout représentant 20 mètres carrés de superficie. Quant au nombre d'indigestions, il n'est pas précisé. Si la pièce montée peut être aussi démesurée, ne serait-ce pas en parallèle avec ce que la langue française, pour éviter toute ambiguïté, nous offre de manière pléthorique en matière de mariage. On risque en effet d'être surpris par la liste y correspondant. Qu'on en juge sur pièce, si on peut dire. Commençons par le mot « mariage » dont les féministes ne peuvent que déplorer l'origine puisque le mot est construit sur « mari », issu du latin « mas »,« maris », qui veut tout simplement dire « mâle ». Le mariage est donc étymologiquement affaire de mâle. Cette pilule machiste étant avalée, il reste que ce mot très couru est propice à force qualificatif. Ainsi, au-delà du mariage forcé, précoce, tardif, bourgeois, ou princier, heureux, ou inespéré, civil, ou encore religieux, endogamique, c'est-à-dire consanguin, par exemple avec son neveu ou sa nièce, ou exogamique, par exemple avec le voisin ou la voisine, on retiendra, parmi d'autres, le mariage blanc. Entendons par là le mariage non consommé, en somme celui qui fait chou blanc. Tant pis pour la pièce montée et ses choux à la crème. Et puis, le mariage de la main gauche, celui d'une personne noble avec quelqu'un de condition inférieure. Un noble épousant une roturière donnait en effet à celle-ci la main gauche pour signifier qu'il lui déniait toute prétention à son propre rang. Disons-le tout de suite, c'est tout de même mieux que ce qu'on a appelé sous la Révolution l'odieux mariage républicain, qui n'est autre que la désignation du supplice attribué à Carrier, qui, dans sa frénésie d'exécution, faisait jeter dans la Loire un homme et une femme attachés ensemble. On n'oubliera pas, bien sûr, le mariage de la carpe et du lapin, c'est-à-dire une alliance impossible, incompatible, même si tous les deux savent bien sauter. Enfin, s'il pleut pour votre mariage, c'est regrettable pour la robe de mariée, mais ne dit-on pas mariage pluvieux, mariage heureux, à ceci près que l'on se trompe de mot. Historiquement pluvieux, en fait plus vieux, désigne en effet le contraire de plus jeune. Aucun rapport donc avec la pluie, mais qu'importe le flocon ou la pluie, pourvu qu'on ait l'ivresse et surtout la pièce montée, une formule attestée dans l'almanach des gourmands, dès 1807, est déjà mentionné par l'Académie française dans la première édition de son dictionnaire, en 1694, sous une autre forme, la pièce de pâtisserie. Alors, vive les pièces montées, à bas les pièces d'artillerie. Du Cro-Magnon au croque-en-bouche. Michel Gay, dans son œuvre pour enfants, n'a pas hésité au début du XXIe siècle à créer les personnages cro-petites et cro-mignons, tout à fait craquants. Évidemment, on pense forcément à l'affreux Cro-Magnon, déjà homo sapiens, malgré son profil redoutable et ses orbites basses. D'où vient cette formulation, d'ailleurs, l'homme de Cro-Magnon? Il s'agit, comme on le sait, du site où on a trouvé ses ossements, en Dordogne, et sans doute que « cro » voulait dire « creux »,« trou » et « magnon », dérivé du latin « magnum »,« grand », « grand trou » en somme. Le succès de la formule, l'homme de Cro-Magnon, tient en fait peut-être aussi à la morphologie du mot, qui se rapproche phonétiquement de beaucoup de mots français en cro, qui dérivent du verbe croquer. Ce sont eux qui vont nous intéresser. D'où vient en effet le mot croquer ? Cric, crac, croc, tous ces mots relèvent en réalité d'onomatopées. Ils sont nés de l'imitation d'un bruit sec, en l'occurrence celui que l'on fait avec les dents, d'où le verbe croquer. On a d'ailleurs dit aussi croqueter. Mais que croquer ? Des mitaines, comme le croque-mitaine ? Mais ces mitaines ne sont surtout pas à confondre avec des gants. Il se pourrait que, comme dans le grippe minot, mitaine désigne en effet le chat, compagnon du diable et grand mangeur d'enfants dans certaines légendes. Rien n'est moins sûr, cependant. D'autres déclarent que la mitaine désignerait en réalité la gifle ou l'injure. Tiens, attrape cette mitaine ! En bref, l'incertitude étymologique règne et le croque-mitaine n'en est que plus mystérieux. Le croque-mort n'est guère plus rassurant. On dit à tort qu'il s'appelait ainsi parce qu'il croquait l'oreille du mort pour vérifier qu'il était bien mort. En fait, croquer a tout simplement ici le sens de faire disparaître. On a gardé le meilleur pour la fin, le croque-madame et le croque-monsieur. Ah, le bon sandwich chaud, deux tranches de pain de mie grillées avec du jambon et du fromage. Il daterait de 1918, pas celui que j'ai mangé à midi. Et sa variante, le croque-madame de 1960. Même sandwich, mais dame oblige, plus raffiné, avec un œuf sur le plat. Et puis, n'oublions pas les croques en bouche, les petits choux à la crème de la pièce montée qui se croquent et craquent en bouche. Le rêve gastronomique retombe hélas avec les croquenots, les gros souliers qui craquent. On aurait d'ailleurs dû dire les craquenots. En définitive, vive les crocs petites et les crocs mignons, ils méritent d'entrer dans le dictionnaire.